VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Bamako, 15h à Kigali. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité américaine. Le président Donald Trump a apporté mercredi son soutien à une refonte du système d'immigration légale aux États-Unis, destiné à réduire drastiquement le nombre d'immigrés peu qualifiés et à baser l'attribution du permis de résidence au mérite. La proposition de loi préparée par les sénateurs républicains Tom Cotton et David Perdue vise à donner la priorité aux personnes parlant anglais et à plafonner à 50 000 par an le nombre de réfugiés obtenant l'autorisation de résider aux États-Unis. Bakary Tondja, un défenseur des droits des immigrants aux États-Unis, dénonce un projet discriminatoire et appelle à une réforme consensuelle.
Compte tenu de la masse des immigrants présents ici et la tradition de l'immigration des États-Unis, bon, c'est très important d'ouvrir un débat, avoir un débat sain pour tenir compte de tous les aspects. C'est un problème qui est extrêmement complexe. Deux individus appartenant à un même parti ne peuvent pas se réunir et discuter et proposer quelque chose qui va affecter des millions et des millions de personnes. Ce n'est pas un débat sain. Le débat doit être ouvert. Tous les partis et la société civile, les experts en matière d'immigration doivent participer au débat pour arriver à quelque chose de viable, qui respecte certains principes moraux et certaines valeurs humaines.
Bakary Tondja, un défenseur des droits des immigrants aux États-Unis. Actualité américaine toujours, le président Donald Trump a nommé la femme d'affaires californienne Jemima Court au poste d'ambassadrice des États-Unis en France. C'est ce qu'a indiqué la Maison-Blanche dans un communiqué. Jemima Court, 63 ans, est présentée sur le site internet de son entreprise comme une entrepreneuse développeuse de projets immobiliers. Sa nomination doit encore être approuvée par le Sénat où les Républicains disposent d'une courte majorité. Afrique maintenant, la lutte contre les djihadistes au Sahel, libération de l'otage sud-africain Steven Magwan, kidnappé par Acmi Al-Qaïda au Maghreb islamique à Tombouctou en 2011 au Mali. La ministre sud-africaine des Affaires étrangères Maïté Nkoana Mashabe a confirmé la nouvelle lors d'une conférence de presse ce jeudi au Cap en Afrique du Sud. Elle a assuré que l'ex-captif est en bonne santé et est maintenant de retour dans son pays. Steven Magwan effectuait une randonnée touristique à moto au Mali avec un Allemand, un Suédois et un Néerlandais quand il a été enlevé avec le Suédois Johan Gustafsson et le Néerlandais Serge Riquet en juin 2011. Son coéquipier allemand y a été tué lors du kidnapping par Acmi. Serge Riquet a été libéré lors d'un raid des forces spéciales françaises en 2015 et Johan Gustafsson a été relâché par ses ravisseurs en juin. Mali toujours, le travail a cessé dans les banques et les assurances mercredi et leurs employés ont participé à une assemblée générale extraordinaire de leur syndicat qui va déposer un préavis de grève lundi prochain. Les syndicalistes estiment qu'il y a violation flagrante des libertés syndicales. Les explications de Amadou Nba, secrétaire administratif du SINABEF, le syndicat des banques et des établissements financiers du Mali.
Le lundi, nous déposons un préavis de grève, demandant le départ sans condition du DG de NCA et de la DGA de NCA de la République du Mali. Parce que c'est une insulte même au Mali d'avoir des gens qui viennent chez nous et qui ne respectent pas nos textes. Toutes les conventions auxquelles le Mali est partie prenante. Nous allons demander la réintégration immédiate, incessamment, du camarade secrétaire général qui a été licencié. Et nous allons demander le départ sans condition du directeur régional du travail, Ag Mohamed, qui est la cause même de cette troupe.
Amadou Nba, secrétaire administratif du SINABEF, le syndicat des banques et établissements financiers du Mali. Élections en Mauritanie, les électeurs se rendent aux urnes samedi pour un référendum constitutionnel convoqué par le président Mohamed Oul Abdelaziz qui prévoit la suppression de plusieurs institutions, y compris le Sénat, une consultation jugée illégale par l'opposition radicale. La campagne a été émaillée de tensions, voire même de violences, lors de rassemblements de l'opposition radicale engagés dans un boycott actif du scrutin pour réduire au minimum la participation électorale. Cette campagne s'achève ce jeudi avec notamment un ultime meeting du chef de l'État qui a promis des révélations. En raison de son boycott, l'opposition radicale est exclue du temps d'antenne de la campagne officielle, à l'exception d'un seul parti, la Convergence démocratique nationale, CDN.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Élection présidentielle au Rwanda maintenant. Les Rwandais de l'étranger ont commencé à voter aujourd'hui dans le cadre du scrutin. Mais c'est officiellement demain vendredi que les électeurs sont censés se rendre aux urnes au pays natal pour élire leur prochain président. La campagne électorale s'est terminée mercredi avec un grand rassemblement du parti au pouvoir à 30 km de Kigali, la capitale. À cette occasion, Paul Kagame, le président sortant et grand favori de cette élection, s'est attaqué à la communauté internationale. Reportage de notre envoyé spécial au Rwanda, Charlie Kasereka.
Trois candidatures ont été retenues pour cette élection, mais seules les couleurs du parti politique FPR du président sortant Paul Kagame sont très visibles sur toute l'étendue du pays. Les deux candidats qui affronteront Paul Kagame pour ces élections sont Frank Habineza, transfuge du parti au pouvoir FPR, et il est le président du parti démocratique vert PDV. L'autre est Philippe Paimana, 46 ans, journaliste et un quasi inconnu au Rwanda, qu'il a quitté en 1994 pour la RDC lors du génocide ici au Rwanda. Ce deux challengers à Paul Kagame, faute des moyens selon eux, n'ont pas eu à faire une bonne campagne ici au pays des mille collines. La majorité de la population ne connaît même pas les noms de ces deux candidats qui vont s'affronter à Paul Kagame, l'homme fort de ce pays de 12 millions d'habitants. Par peur ou conviction, voteront-ils pour Paul Kagame? Certains restent convaincus qu'il est l'homme de la situation ici au pays. C'est le cas de cette habitante de Kigali, ancienne réfugiée en RDC et qui est de retour depuis maintenant un moment.
Kagame?
Je suis commerçante. Mon président m'a montré l'utilité des banques. Je vais voter pour Kagame parce qu'il nous a donné les mutuelles de santé qui nous aident beaucoup, nous les Rwandais. Et il a mis la parité entre hommes et femmes dans notre pays.
Pour cette dernière journée de la campagne électorale, devant une foule immense de plus de 50 000 personnes, le président Paul Kagame s'est adressé plus à la communauté internationale qui les qualifie de dictateurs.
Ils disent que ce sont eux qui nous apprennent la démocratie, mais pour ceux qui le savent, tout récemment, il y a eu des élections quelque part et on a raconté qu'il y a eu piratage informatique et que par conséquent, ils ont eu un dirigeant qu'ils ne voulaient pas. Et d'autres racontent que Kigali, la capitale du Rwanda et les villes urbaines sont propres, mais que cette propreté n'est pas une démocratie, mais plutôt une dictature.
Paul Kagame, pour la troisième fois comme candidat président, en 2010, il avait remporté les élections avec 93% des voix, chose qui pourrait se reproduire ce vendredi 4 août, après une campagne électorale de 15 jours. Charlie Kasereka depuis Kigali au Rwanda pour VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, le Parti congolais du travail PCT au pouvoir a obtenu la majorité absolue à la future Assemblée nationale avec 90 des 151 sièges. Les résultats officiels du second tour, qui a eu lieu le 30 juillet, ont été communiqués dans la nuit de mercredi à jeudi à la télévision publique par le ministre de l'Intérieur, Raymond Zéphirin Mboulou. L'Union panafricaine pour la démocratie sociale, première formation d'opposition, et l'Union des démocrates et humanistes de Guy Brice Parfait-Colelas, arrivés au deuxième rang lors de l'élection présidentielle de 2016, ont obtenu chacune 8 députés. Le ministre de l'Intérieur n'a fourni aucun chiffre sur le taux de participation électorale. Et pour terminer, au Cameroun, le clergé camerounais a profité des obsèques de Mgr Jean-Benoît Mbala pour contester de nouveau la version officielle de sa mort par noyade. Qui tue les prêtres dans ce pays, s'est demandé Mgr Joseph Akonga, évêque et ami du défunt. Il a ajouté que le regretté Jean-Marie Benoît Mbala était un excellent nageur et ne pouvait donc pas se noyer. Il a tenu ses propos devant de nombreuses personnalités, dont le ministre camerounais de la Justice, Laurent Esso. Et pour terminer, nous allons au Soudan du Sud, où au moins 4 civils ont été tués par des inconnus dans une embuscade tendue dans le pays mercredi sur la principale route reliant la capitale Djouba à la frontière ougandaise. L'attaque est la dernière en date sur cet axe fréquenté mais dangereux, emprunté notamment par des Soudanais du Sud qui fuient la guerre civile déchirant leur pays depuis plus de 3 ans pour se réfugier en Ouganda voisin. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.